Dans une déclaration faite la semaine dernière, le député national Henri Thomas Locondo appelle à la levée des mesures de gestion des affaires courantes du gouvernement, ce qui permettra, selon lui, à l'exécutif national de fonctionner normalement et d'éviter ainsi la paralysie de l'administration. Ce député affirme que les activités sont bloquées non seulement dans les gouvernements, mais aussi dans les entreprises publiques. Comment analyser cette déclaration? Nous en parlons avec Maître Jacques Ngaka, il est membre de l'Union Congolaise pour la Liberté UCL en sigle, parti de l'honorable Henri Thomas Locondo. Bonsoir Maître Jacques Ngaka.
Bonsoir.
Franklin Tchamala, il est communicateur de la majorité présidentielle. Bonsoir Franklin Tchamala.
Bonsoir Guy Maté.
Et professeur Félicien Kabamba, professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Bonsoir professeur Félicien Kabamba.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le député national Henri Thomas Locondo appelle à la levée de la mesure de gestion des affaires courantes du gouvernement, ce qui permettra à l'exécutif national de fonctionner normalement et d'éviter ainsi la paralysie de l'administration. Dans un point de presse tenu jeudi dernier à Kinshasa, cet élu national a aussi exhorté le chef de l'État à autoriser le Premier ministre à suspendre cette démission. Ce député affirme que les activités sont bloquées non seulement dans les gouvernements, mais aussi dans les entreprises publiques. Faisant notamment allusion au discours du chef de l'État, Henri Thomas Locondo estime que, puisque la mise en place du gouvernement ne pourra pas intervenir dans un court délai, il faut un retour au fonctionnement normal du gouvernement. Henri Thomas Locondo exprime son inquiétude au micro de Mimi Ngumba Mulongo.
C'est pas un secret, que ce soit les membres du gouvernement ou beaucoup d'autres responsables des entreprises publiques et services publics de l'État ont le cœur ailleurs. Le cœur n'est pas vraiment à l'ouvrage, parce que vous savez, quand on annonce la mise en place d'un gouvernement comme ça, on a l'habitude. Les gens se préparent soit pour rester ou partir, et tu vois, ils sont dans un comportement un peu inconfortable pour le fonctionnement de l'État, c'est pas bien. Puis on peut pas vraiment laisser le pays au ralenti comme ça pendant pratiquement plus d'une année, c'est pas normal. Le président de la République a dit dans son discours que le gouvernement des concertations nationales seront appliquées méthodiquement et sans précipitation. Or, il s'avère que la mise en place du gouvernement de cohésion nationale est la première de ces recommandations. Et à court terme, ce sera impossible parce que ce gouvernement doit être investi par l'Assemblée nationale qui est en vacances et qui ne reprend que le 15 septembre. Je crois qu'il faut tirer toutes les conséquences de ce discours, demander à ce que le Premier ministre puisse avoir l'autorisation du chef de l'État pour ramener le pays dans son fonctionnement normal.
Réagissant à ces propos, le porte-parole du gouvernement parlait plutôt d'un ralentissement du rythme de travail. Selon Lambert Mende, ce ralentissement est passé à quelques vitesses dans certains ministères qui fonctionnent normalement. Les ministres de la communication et des médias les disaient jeudi à l'occasion de la conférence de presse. Lambert Mende au micro de Jeff Ngoyi.
Il n'y a pas paralysie. Il y a eu ralentissement des activités il y a quelques mois, lorsque par mesure de précaution, le Premier ministre avait décidé de prendre en compte l'option du chef de l'État de mettre en place un gouvernement de cohésion nationale. Mais depuis lors, les ministères sont en train de travailler, même celui de l'enseignement supérieur et universitaire, et les différentes perceptions positives que nous enregistrons maintenant, les performances que la République accumule dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du doing business, dans le domaine de l'initiative pour la transparence des industries extractives sont le fait de ce gouvernement qui ne peut pas être qualifié d'un gouvernement en paralysie. Pour le reste, le président mettra en place son gouvernement. Nous pensons qu'il a dû rencontrer quelques obstacles, qu'il est en train de les surmonter.
Maître Jacques Ngaka, je rappelle que vous êtes membre de l'Union Congolaise pour la Liberté UCL en sigle, parti de l'honorable Henri Thomas Locondo. La mesure relative à la gestion des affaires courantes par le gouvernement paralyse l'administration publique, selon le député Locondo. En quoi cette mesure paralyse l'administration publique?
Là, avant toute chose, je voudrais préciser que je suis le président fédéral de l'UCL section Kinshasa, section Mont-Amba. Si vous rentrez dans le vif du sujet, je voudrais tout simplement me poser la question, que dire encore par rapport à ce que l'honorable Kondo a dit? Est-ce que cette réaction mérite débat? Je ne le pense pas. C'est pour des raisons d'ailleurs de commodité et aussi pour édifier davantage l'opinion que nous avons répondu ponctuellement à cette invitation de la radio Okapi qui est suivie dans toute la République démocratique du Congo. Cette réaction objective de l'honorable Lokondo Henri Thomas, qui est d'ailleurs de la majorité présidentielle, est pertinente. Je ne viens point faire l'apologie d'un député national président de mon parti politique, qui par ailleurs a été plébiscité à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale pour son sens participatif au débat et son objectivité sans faille dans l'examen des textes de loi au sein de l'hémicycle. Bien évidemment avec d'autres éminents députés nationaux, à l'image des honorables Ekombe, Sesanga ou Chadari et bien d'autres. Mais je viens plutôt partager et non discuter du bien fondé de cette analyse et des conséquences.
Oui,
que...
Maître Jacques Ngaka, vous partagez avec nous, mais en quoi cette mesure d'expédition des affaires courantes paralyse-t-elle l'administration publique?
Oui, cette mesure qui découle naturellement du speech du chef de l'État lors des festivités commémoratives du 30 juin, où il avait réaffirmé son engagement à accélérer la mise en œuvre de ces assises de façon méthodique, en évitant toute précipitation, mettant ainsi provisoirement un terme au suspense qui annonçait de l'imminence d'un gouvernement de cohésion nationale. C'est cette situation qui a été à la base de tout. Alors, la déclaration réaliste du chef de l'État, qui ramène les choses à leur juste dimension, ne peut éventuellement pas postposer en fait la mise en place du gouvernement de cohésion nationale. Le Premier ministre avait pris dernièrement une mesure mettant éventuellement il avait décrété de façon unilatérale le régime des affaires courantes. Et cette mesure...
C'était au lendemain des discours du chef de l'État.
Non. C'était au lendemain des discours de concertation. Je pense que c'était au mois d'octobre.
Voilà, c'était des discours du chef de l'État qui sanctionnaient la fin
des concertations nationales.
Le 23 octobre de l'année dernière.
Et le Premier ministre s'est empressé de décréter de façon unilatérale le régime des affaires courantes. Cette mesure qui énerve la Constitution, avec conséquence la paralysie du gouvernement et même des entreprises du portefeuille de l'État sous tutelle. Cette paralysie fonctionnelle avait même atteint son paroxysme quand les ministres instruits par le Premier ministre dans la même note avaient déjà apprêté des éléments de leur remise reprise. C'est une mesure que nous avons qualifiée de prématurée et imprudente parce qu'elle empêchait manifestement le gouvernement et les entreprises publiques de travailler normalement et ce depuis 8 mois déjà. Certes, je présume que le Premier ministre avait pensé bien faire en anticipant du fait que le gouvernement de cohésion nationale pouvait être mis en place au cours des sessions parlementaires de septembre passé ou plus récemment ici de mars, qui vient de s'achever. Celui-ci devant être impérativement investi par l'Assemblée nationale, comme le stipule l'article 90 de la Constitution.
Voilà, Maître Ngaka, vous dites que cette mesure-là bloque les choses, non seulement dans le gouvernement, mais aussi dans les entreprises publiques.
Oui.
Est-ce que vous avez des cas précis?
Les cas, vous savez, les entreprises publiques sont les entreprises de l'État qui sont sous tutelle du gouvernement, qui peut le plus, peut le moins. Si déjà le gouvernement fonctionne au ralenti, comme le dit le ministre des médias, encore que c'est un jeu de mots, paralysie, ralenti, à plus forte raison les entreprises publiques qui sont sous tutelle du gouvernement, de certains ministères.
Voilà, vous avez suivi les porte-parole du gouvernement qui ne reconnaît pas cette paralysie dont vous parlez. Et il dit que le gouvernement fonctionne normalement et il étaye son argumentaire en évoquant les différentes performances que le gouvernement accumule, notamment dans le domaine de l'éducation et dans le domaine des litiés. La semaine dernière, la RDC a été jugée conforme à litiés, l'initiative pour la transparence des industries extractives. Vous pensez qu'un gouvernement paralysé peut accomplir de tels exploits?
Le ministre des médias a parlé du ralentissement. Je ne sais pas d'après la sémantique.
Ralentissement au début. Voilà.
Et il a dit que ralentissement et paralysie, je pense qu'il nous a rejoint là-dessus. C'est comme je le disais, c'est un jeu de mots. Lorsqu'on parle des performances, je me dis le gouvernement c'est une continuité. On a initié certains programmes qui ont été suivis, qui ont abouti. On pouvait faire mieux s'il n'y avait pas cette paralysie.
C'est-à-dire
qu'on pouvait faire mieux. C'est-à-dire que si aujourd'hui on parle des performances ITIE, on a parlé de l'éducation et quid du social. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle des denrées alimentaires de première nécessité qui ont augmenté? Les questions sont là.
Oui, maître Jacques Ngaka, nous allons prendre pour vous la question qui vient de Manaka à l'Équateur.
Moi, c'est Yannick Mbombongoussou, je suis en Mbandaka dans la province de l'Équateur. À mon humble avis, les propos du député Henri Thomas Lokondo, élu de Mbandaka, sont à soutenir. Cela pour libérer le pays de son actuel blocage au niveau administratif. Pourquoi tarde-t-il la sortie de ce nouveau gouvernement? Sinon, moi, je crois que pour prioriser les pistes de l'intérêt général du pays, il faudrait conduire ou renforcer les pouvoirs de l'actuelle équipe gouvernementale. C'est depuis très longtemps que les activités administratives sont bloquées dans les pays, juste pour la simple raison que les gouvernements en place est réputé démissionnaire depuis plus de 5 mois. En attendant, il faut renforcer les pouvoirs de l'actuelle équipe gouvernementale.
Nous présentons nos excuses pour la qualité de ces sons. Maître Jacques Ngaka, votre réaction?
Je pense qu'il a abondé dans le même sens que l'honorable Lokondo. Et je pense qu'aujourd'hui nous faisons un débat, certes. Mais est-ce que cette situation mérite vraiment un débat? Vous savez, moi je dis ceci en termes simples. Vous m'avez posé la question, peut-être que quelles sont les conséquences au sein de ce dysfonctionnement? Je ne prends que quelques illustrations. Pas de tenue de réunions hebdomadaires du gouvernement comme l'est de coutume universellement. La signature des arrêtés interministériels par 8 ministres dans une matière où le premier ministre pouvait directement prendre un décret. On privilégiait certes la réunion d'une troïka stratégique, qui par ailleurs ne traite que des matières économiques et financières. Existe-t-il une troïka qui traite des matières sécuritaires, culturelles ou autres? Je tiens à relever pour ce cas précis, notamment de la troïka, que cette dernière n'est pas une première d'ailleurs. Celle-ci, il est vrai, est l'équivalent du comité de conjoncture économique qui avait existé en République démocratique du Congo à l'époque du Zaïre.
Merci. Merci. Franck Lintiamala, je rappelle que vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Et tout a commencé le 23 octobre 2013 avec l'annonce par le chef de l'État de la mise en place pour bientôt, c'est le terme qu'il avait utilisé, et la mise en place pour bientôt d'un gouvernement de cohésion nationale. Et pour se conformer, n'est-ce pas, à cette décision du chef de l'État, le Premier ministre Matata Ponyo avait demandé aux membres du gouvernement d'expédier les affaires courantes jusqu'à la formation du prochain gouvernement. Et depuis lors, ce gouvernement n'est toujours pas là. Et voilà qu'aujourd'hui, le député Henri Thomas Lokondo, il a eu le courage, n'est-ce pas, de dénoncer la paralysie de l'administration publique qui est consécutive, n'est-ce pas, à cette décision du Premier ministre.
Bien. Merci beaucoup pour l'invitation, mon frère Guy Maté. Il est vrai que le député national Henri Thomas Lokondo a fait une déclaration qui se passe de tout commentaire. Et ce, d'autant plus que, au-delà de sa qualité de député national, agissant dans le cadre des prérogatives qui lui sont reconnues par la Constitution, il est par ailleurs chef d'un parti politique qui, dans cette période d'attente d'un gouvernement de cohésion nationale, avait légitimement quelques attentes également, ou les a encore. Ceci étant dit, j'insiste et je dis, c'est une déclaration qui se passe de tout commentaire dans son essence. Mais une déclaration en même temps qui suscite quelques questionnements.
Ça veut dire que, à certains points de vue, il a raison, le député Henri Thomas Lokondo.
Plaidant pour le recouvrement par le gouvernement de la plénitude de ses prérogatives, puisqu'il estime, en tant que député national, de qui ce gouvernement est issu, que ce gouvernement en est dépourvu, je pense que cela se passe de tout commentaire. Mais ceci étant, cette question appelle d'autres questions. Je dis, dans la ligne de celle que vous avez soulevée vous-même, je m'interroge à haute voix. En voulant savoir, lorsque vous lisez les indicateurs qui sont renseignés par la feuille de route du gouvernement, quelles sont les choses que ces gouvernements devaient faire et qui n'ont pas été faites du fait de ces mesures conservatoires?
des choses qui peuvent justifier les inquiétudes comme ça d'un député national et pas surcroît un député, en fait un chef de parti. Quelles sont les choses ou quelles sont les tâches, quelles sont les actions que ce gouvernement-là devait accomplir et qui ne l'ont pas été du fait de ces mesures conservatoires. Je voudrais ici...
Vous avez vu Jacques Ngaka qui a évoqué les sociales.
Peut-être ça veut dire quoi les sociales?
Cette mesure n'avait pas été prise. Peut-être que aujourd'hui, le Premier ministre aurait, d'une façon ou d'une autre, amélioré les sociales des Congolais.
Ça veut dire quoi les sociales? Ça veut dire quoi? Je voudrais aller loin. Je dis, lisez bien la Constitution en son article 93. Il dit ceci que les ministres sont chacun responsables de la direction de son département, qu'ils administrent sous la coordination du Premier ministre. Même en temps normal, les ministres gèrent leurs administrations différentes sous la coordination du Premier ministre. Et les mesures conservatoires, qui sont généralement édictées en pareil moment, sont des mesures qui visent essentiellement, et dans les cas d'espèce, à renforcer ce regard ou cette coordination du Premier ministre. En ce que, lorsque vous lisez la lettre du Premier ministre, elle enjoint tous les ministres de se référer à lui lorsqu'ils sont amenés à prendre un certain nombre de décisions importantes. Bon, maintenant, ceci étant, ceci a-t-il empêché à notre programme de faire la promotion de l'éducation nationale telle que cela a été fait, telle que le monde entier est en train de le plébisciter aujourd'hui en faveur de notre pays? Des écoles qui naissent des ruines. Ceci a-t-il empêché à notre gouvernement de doter ce pays, ici, d'une compagnie de transport en commun, et non, doté des bus, des très bonnes qualités, des bus neufs? Ceci a-t-il empêché à notre armée d'être équipée de la manière dont tout le monde s'est rendu compte à l'occasion de la commémoration de la journée de l'accession de notre pays à sa souveraineté nationale et internationale? Ceci empêche-t-il au gouvernement de payer les fonctionnaires régulièrement et à une échéance précise? Ceci empêche-t-il au gouvernement de pouvoir équiper les hôpitaux et en reconstruire et en construire d'autres?
Voilà, là, c'est des points forts, n'est-ce pas,
oui,
du gouvernement.
Dis,
la bancarisation, l'éducation,
oui,
les transports, n'est-ce pas, la montée en puissance des FARDC.
Oui.
Mais dès lors que le Premier ministre demande aux membres du gouvernement de ne pas poser certains actes, notamment, ils ne doivent pas effectuer des missions à l'extérieur du pays, il leur est interdit aussi la conclusion des nouveaux engagements financiers, des marchés publics et la signature des contrats, vous pensez que cela peut se faire sans conséquence?
Non. Lisez bien la lettre. Elle n'interdit pas aux ministres d'effectuer des missions à l'étranger.
Si.
Mais leur demande d'obtenir l'approbation préalable
la lettre qui
avant de faire
la mention urgent.
Oui.
Les ministres sont interdits d'aller à l'extérieur.
Non, mais le ministre du Travail en ce moment et emploi est à Harare.
C'est pourquoi
beaucoup de ministres.
C'est pourquoi on se pose des questions. La lettre existe, la lettre elle est claire.
Oui.
Mais en dépit de cette lettre, bon, les actes sont posés.
Les actes sont posés.
En allant à l'encontre même de l'esprit de cette.
Pas
cette
du lettre. Tout, pas du tout. Je dis, cette lettre engage les différents ministres de requérir l'approbation du Premier ministre lorsqu'ils doivent poser un certain nombre d'actes. Et
est-ce
c'est
que vous
ce qui s'est fait.
Est-ce que vous...
Les missions se font à l'étranger.
Est-ce que vous savez, M. Kamana,
oui,
qu'il y a des partenaires qui hésitent à financer certains projets, notamment dans les domaines de la santé, de l'environnement, et parce qu'ils estiment qu'ils ne peuvent pas les faire avec un gouvernement démissionnaire?
Connaissez-vous un seul partenaire?
Évidemment,
qui a dit qu'il financerait
pas les citer
un projet là-dedans?
On ne va pas les citer ici.
Ah, vous n'allez pas le citer.
C'est des faits.
Non, vous n'allez pas le citer. Mais vous connaissez également des partenaires en ce moment qui signent des contrats de financement en bonne et due forme avec ces gouvernements-là. Je dis, c'est des questions qu'il faut débattre dans un environnement débarrassé de toute la passion possible. Je dis, le chef de l'État a engagé les pays dans la voie de la mise sur pied d'un gouvernement de cohésion nationale. Ceci appelle de notre part la prise en compte à travers nos capacités intellectuelles de la gestion du temps, mais également de la gestion d'autres pesanteurs environnementales,
merci,
les pesanteurs politiques, hein, qui requièrent le traitement d'une telle question.
Merci.
Voilà.
Professeur Félicien Kabamba, je rappelle que vous êtes professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Comment vous analysez cette situation?
Disons que La question que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est que vaut encore la décision prise par le chef de l'État démettant le gouvernement, mais que vaut également le train de mesures qui ont été prises par le Premier ministre pour matérialiser la décision du chef de l'État. Et vous-même, vous venez de revenir là-dessus, la limitation au strict minimum ou tout simplement la mesure d'interdiction de partir, donc de voyager à l'extérieur, de participer aux négociations internationales, de signer de nouveaux contrats. Et donc, on peut bien se demander, train de mesures ont-elles été abrogées ou tout simplement on assiste à leur caducité. Et je crois que là, il y a un véritable problème de l'exécution des décisions et des mesures réglementaires qui ont été prises, et en particulier en ce qui concerne la démission du gouvernement. Mais dire qu'il y a une paralysie, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait une paralysie totale de l'action gouvernementale, parce qu'en fait, l'activité du gouvernement démissionnaire nous a semblé être réduite les premiers mois, et s'est ensuite envolé en flèche les mois qui ont suivi. Si bien qu'on s'est demandé si, véritablement, les instructions données par le Premier ministre ont été appliquées. Je ne crois pas que, contrairement à ce que soutient mon collègue qui vient de parler tout à l'heure, que le Premier ministre est en mesure de suivre et de contrôler pas à pas les nombreux actes pris chaque jour par les différents ministres. Ce serait alors un Premier ministre spécial et qui, à mon avis, est très attentionné, a suffisamment de temps pour suivre chacun des actes posés par les ministres. C'est absolument c'est incroyable. Je crois là qu'il y a apparemment un abandon tacite du train de mesures pris par le Premier ministre. Et cela se manifeste par quoi ? Parce qu'aujourd'hui, la question que l'on peut se poser, c'est que quels sont les actes que le ministre prenait par le passé et qu'il ne prenne pas aujourd'hui ? Moi, je crois véritablement que on est là en face d'une situation d'un abandon tacite de train de mesures prises par le Premier ministre. Donc, on est là dans une situation où le gouvernement évolue comme s'il n'était pas démissionnaire.
Oui, professeur, vous affirmez qu'il n'y a pas paralysie au sein du gouvernement ou de l'administration publique. L'article 91 de la Constitution stipule que le gouvernement dispose de l'administration publique, des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité. Et quand une situation des affaires courantes perdure, n'est-ce pas que c'est tous ces services-là qui sont affectés?
Oui, mais vous devez savoir que le gouvernement ne peut pas ne peut pas prendre le prétexte pour manifester une certaine inaction gouvernementale. Donc, c'est derrière ça qu'en fait, le gouvernement s'est dit, mais en fait, la période d'empêchement, la période de réduction des compétences ministérielles ne peut pas être aussi longue. En principe, la démission du gouvernement est concevable et le concept d'affaires courantes n'est concevable que si la durée est courte. Et parce que la durée devient aussi longue, elle devient presque permanente, le gouvernement se retrouve dans une situation où il est obligé d'assurer les tâches quotidiennes de l'État. Et pour le faire, il doit recouvrer, à mon avis, la totalité de ses prérogatives. Et c'est ce qui s'est fait. Mais ça s'est fait de manière tacite, pratiquement en violation de toutes les mesures réglementaires prises par le Premier ministre.
Oui, professeur, vous dites que nous nous trouvons dans une situation d'abandon tacite des mesures prises par le Premier ministre. Pourquoi il n'a pas eu le courage, n'est-ce pas, de le dire officiellement qu'il ait levé cette mesure?
Non, ce n'était pas à lui de dire qu'il levait la mesure, parce que lui n'a fait que matérialiser, accompagner la décision prise par le chef de l'État. Et donc, du coup, ce n'était pas au Premier ministre de lever la mesure, parce que le chef de l'État n'a pas dit le contraire pour le chef de l'État. À mon avis, le gouvernement continue à être démissionnaire. Et donc, du coup, le Premier ministre ne suit que le chef de l'État a donné comme instruction. Et donc, du coup, ce n'était pas au Premier ministre d'annoncer cela. Par contre, ce qu'il faut préciser ici, c'est que le Premier ministre avait en son temps donné des instructions à son cabinet et le cabinet, dans un premier temps, a commencé à suivre ses instructions. Et d'ailleurs, l'une des personnes qui a voulu ne pas suivre les instructions a été rapidement sanctionnée. C'est le ministre qui est parti. Et à mon avis, c'est là, c'était une décision forte du Premier ministre. Parce qu'en fait, cette décision a recréé une certaine discipline au niveau de l'équipe. Et qui a fait que cette équipe a résisté jusqu'à aujourd'hui, à mon avis. Si, au niveau de cette équipe, il y avait une dislocation des membres du cabinet, et s'il y avait une indiscipline continue, cette équipe n'aurait peut-être pas résisté jusqu'à ce jour. Donc le fait que il ait restauré la discipline, il ait obligé d'une manière ou d'une autre le ministre à respecter ces mesures, eh bien je crois que ça a permis à ce gouvernement de rester en place jusqu'à aujourd'hui. Mais comme cette période d'affaires courantes a pris énormément de temps, eh bien, aujourd'hui, on a affaire à un abandon tacite des 32 mesures prises par le Premier ministre.
Maître Jacques Ngaka, vous avez suivi Franklin Tchamala qui dit qu'il ne voit pas en quoi ces mesures ont paralysé, n'est-ce pas, l'administration publique. Et le professeur Félicien Kabamba qui estime aussi que ni le gouvernement ni l'administration ne sont pas paralysés par ces mesures.
Oui, bon, avant de dire toute chose, je vais citer Boileau. Boileau qui disait que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Je n'entrerai pas dans des détails qui, je pense, à mon avis, ne sont pas importants. Nous allons rester dans le concept général. Je voudrais, avant toute chose, clarifier une chose. L'article 78 de la Constitution, qui est même la base de tout, stipule ce qui suit. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Point. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Fin de citation. Je voudrais éventuellement, à ce sujet, une chose me vient à l'esprit. À ce stade, nous devons plutôt nous poser la question de savoir comment notre gouvernement peut-il mettre un terme à cette situation de droit qui handicape son bon fonctionnement. Le professeur Kabamba parle d'abandon tacite des mesures prises par le Premier ministre. Mais je suis étonné parce que je me dis que le principe de la théorie de l'acte contraire suppose que, en droit, c'est le fameux principe du parallélisme de forme, dit que la personne qui prend la décision, c'est cette personne-là qui doit revoquer cette décision-là. Je pense qu'il y a une décision qui a été prise, le Premier ministre a pris un décret qui est connu de tout le monde. Et dans ce décret, d'ailleurs, il a tout ramené à son avis préalable. Là, je voudrais éventuellement clarifier mon contradicteur pour dire que si il y a le Premier ministre requiert l'avis préalable pour tout acte du gouvernement, quel sens donner encore à l'article 93 de la Constitution qui consacre la responsabilité individuelle de chaque ministre dans son département? Est-ce que les ministres s'assument-ils pleinement maintenant? C'est la question qu'on devrait se poser. Si cet article a dit encore la direction et la coordination du Premier ministre, tel que stipulé par cet article, on n'a jamais été entendu comme un quelconque mandat personnel accordé au Premier ministre. Non, je n'entre pas dans cette logique-là. Le gouvernement a l'image, puisque nous sommes au mondial aujourd'hui, nous suivons le mondial. Le gouvernement, moi je pense à mon humble avis que c'est comme à l'image d'un match de football. Il y a une équipe, il y a un entraîneur, l'entraîneur c'est le chef de l'État, il y a un capitaine, le Premier ministre, et des joueurs qui ont chacun respectivement un rôle à jouer. C'est ça la beauté du jeu. C'est le sens à donner notamment aux contresignes par les ministres chargés de leur exécution de certains actes du Premier ministre. Je pense que nous devons être réalistes et comprendre que, bien que on voudrait éventuellement dire que, bon, je voudrais encore reciter le professeur qui a dit: le concept d'affaires courantes est un concept court. Mais ça fait 8 mois qu'aujourd'hui, jour pour jour, le gouvernement est dans ce régime d'affaires courantes.
Parce que c'est pourquoi il évoque l'abandon tacite, n'est-ce pas, de cette série de mesures.
Mais comment abandonner tacitement ce qui a été décrété officiellement?
Santé, Chamala. Vous avez suivi le professeur qui, lui, estime qu'il y a eu de la part du Premier ministre, de la part des ministres, un abandon tacite des mesures qui ont été prises par le Premier ministre et qui n'appartient pas au Premier ministre de prendre d'autres mesures pour annuler celles qu'il avait prises.
Non, je voudrais prendre la question par l'autre bout. Peut-on affirmer aujourd'hui sans embâche que le gouvernement Matata était formellement démissionnaire? Par quel acte ce gouvernement a-t-il déposé sa démission? La circulaire par laquelle le chef du gouvernement notifie aux membres du gouvernement les mesures conservatoires, cette circulaire-là, signée par le Premier ministre, spécifie la limitation de pouvoir que le chef du gouvernement leur a imposé en cette période où la nation était dans l'attente du gouvernement de cohésion nationale tel que voulu par le chef de l'État. Un point très. Des mesures conservatoires.
Monsieur François Chamala, est-ce que le chef de l'État n'a pas mis par l'annonce qu'il avait faite le 23 octobre de l'année passée, l'annonce qui consistait, n'est-ce pas, à mettre en place un gouvernement de cohésion nationale, est-ce que par cette annonce-là, le chef de l'État n'a pas mis le gouvernement ou le Premier ministre dans une situation embarrassante?
Je ne sais pas embarrassante pourquoi. Parce que constitutionnellement, la prérogative d'énommer le gouvernement et de le démettre revient au chef de l'État. C'est clair. Et ici, il a annoncé son intention de mettre sur pied un gouvernement de cohésion nationale dans les sens, allant dans le sens de consolider la cohésion nationale et que toute la nation, dont toute la nation a été en quête. Bon, alors maintenant, je dis formellement, nous ne pouvons pas dire ici que le gouvernement de notre pays était démissionnaire. Formellement. Donc, deuxième chose.
Mais il expédiait les affaires courantes.
Je crois qu'il était sous un régime.
Officiellement, il continue à expédier
les affaires courantes. Il était sous un régime d'observation des mesures conservatoires dans l'attente de la mise sur pied d'un gouvernement de cohésion nationale qui, le moment venu, devait appeler de la part du Premier ministre, naturellement, la démission formelle de son cabinet. Démission qui n'était pas encore faite. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est un cabinet qui n'a jamais démissionné. Il faut que cela soit noté, parce que des choses comme ça ne peuvent pas passer facilement dans le futur. Alors,
nous avons Robert Bahomé de Bukavu, c'est vous, qui dit « La déclaration du député national de la majorité, Thomas Lokondo, est fondée. Néanmoins, je pense que le risque est qu'elle ne soit pas considérée ni suivie par le gouvernement, car ces derniers se sentiraient mieux dans l'expédition des affaires courantes que dans la gestion en temps normal, où sa responsabilité serait totalement engagée. C'est une situation qui pourrait enrager le gouvernement, cette situation?
Bon, je crois qu'il y a amalgame. Ça n'a pas arrangé le gouvernement, ça n'arrange pas le gouvernement. Je ne comprends pas ce que c'est. Je veux que l'on donne un contenu à chaque chose. J'ai posé la question, j'y reviens, j'ai dit, lorsque vous référez à la feuille de route du gouvernement, qu'est-ce que ce gouvernement devait faire et qui n'a pas été fait du fait de ces mesures conservatoires auxquelles ce gouvernement a été astreint par la circulaire du Premier ministre? Qu'est-ce que ce gouvernement devait faire et qui n'a pas été fait? En réalité, lorsque vous évaluez, vous décryptez les contenus de la feuille de route, à 90%, ce qui devait être fait a été fait.
Par rapport à l'objectif... Cela veut dire logiquement que le gouvernement a violé ses propres mesures.
Non, mais parce que ces mesures n'interdisaient pas au gouvernement de fonctionner ou de gérer le pays. Les mesures conservatoires n'ont pas interdit au gouvernement ni aux entreprises publiques de fonctionner. Ces mesures conservatoires ont astreint simplement les gestionnaires de la chose publique à une certaine prudence dans la manière de poser un certain nombre d'actes. Je suis un mandataire de l'État honoraire, j'en sais quelque chose. Et donc ces mesures-là n'ont pas dit « gouvernement, vous ne fonctionnez plus ». Non. La preuve, c'est que le gouvernement a continué à fonctionner normalement. Et donc, je ne vois pas.
Professeur Félicien Kabamba, nous allons prendre pour vous cette question qui vient de Kinshasa.
Le parti Kassema à Kinshasa. Cette déclaration est à saluer du fait de son caractère révélatrice, car il est admissible et dangereux de fonctionner pendant 8 mois avec un gouvernement démissionnaire. Surtout que l'administration publique qui pouvait pallier à cette carence est gangrénée de tout maux. Quoi qu'il en soit, l'hypothèse du gouvernement de cohésion nationale n'est pas solitaire, car c'est le type du gouvernement le plus fragile au monde. Il serait plutôt évident de laisser le pouvoir en place achever son mandat en préparant en même temps l'alternance politique, ce qui fera que la majorité d'aujourd'hui devienne la minorité demain et vice versa.
Professeur, cette question comporte des aspects. Il est dangereux de fonctionner pendant plus de 8 mois avec un gouvernement démissionnaire. Et l'autre aspect, c'est quoi qu'il en soit, l'hypothèse du gouvernement d'Union nationale n'est pas salutaire, car ce type de gouvernement est le plus fragile au monde.
Oui, mais je voudrais revenir un peu sur la question du gouvernement, donc du concept d'affaires courantes. Je crois que le fait que l'on ait abandonné les mesures prises par le Premier ministre n'est pas une bonne chose parce que nous sommes dans un état de droit, un état qui est régi par les normes. Et à partir du moment où le Premier ministre pose des normes, nous pensons que ces normes, tant qu'elles n'ont pas été levées, ne peuvent pas être abandonnées tacitement. L'abandon tacite n'est pas, ne doit pas être une règle. Il faudrait qu'il y ait, à mon avis, une contre-circulaire, mais cette contre-circulaire, je ne suis pas d'accord avec le prédécesseur qui vient de dire voilà, il n'y a pas eu les actes officiels. Pour le Premier ministre a pris cette circulaire qui édictait des normes conservatoires, je crois qu'il a pris après avoir discuté avec le chef de l'État. Et donc, le Premier ministre ne peut pas lui-même déclarer son gouvernement démissionnaire s'il n'a pas conféré avec le chef de l'État. Et cette circulaire, à mon avis, elle allait dans le sens de ce qui avait été annoncé par le chef de l'État. Et c'est d'ailleurs cette circulaire qui a mis, à mon avis, tout le monde d'accord sur le fait que le gouvernement était partant. Et à partir de là, tous ont regardé en direction du chef de l'État et du Premier ministre pour voir si c'est le Premier ministre qui allait être conduit ou c'est un autre qui allait être conduit. Et à partir de ce moment-là, eh bien, les ministres tous savaient qu'ils étaient partants et on a vu une grande activité politique qui avait été entreprise par les uns les autres et les états-majors de partis politiques également s'étaient mis. Et donc, du coup, dire qu'il n'y a pas eu un acte, je ne sais pas, chaque fois que le chef de l'État annonce quelque chose et que cela est suivi par des actes réglementaires du chef de l'exécutif, je ne sais pas s'il y a autre chose que l'on peut dire.
Oui, professeur Félicien.
Oui.
Professeur, le fait que le chef de l'État ait annoncé pour bientôt la mise sur pied de la mise en place de ces gouvernements de cohésion nationale et qu'il ait pris beaucoup de temps avant de mettre ces gouvernements en place, vous ne pensez pas qu'il a mis les premiers ministres, c'est une question que j'ai posée à Franck Tchamala, il a mis les premiers ministres dans une situation difficile?
Exactement. Les premiers ministres dans une situation très compliquée parce que, ayant déjà pris un train de mesures, il n'a pas été à mesure de manteler ce train de mesures ou de renoncer à ce train de mesures. Et du coup, c'est pourquoi j'ai parlé d'abandon tacite. Donc, qu'est-ce qu'il a pu dire à ses ministres? Mais je ne crois pas qu'il ait eu le courage de dire, voilà, je retire ma circulaire. Tout simplement, on constate qu'il y a un abandon de toutes les décisions, toutes les mesures qui avaient été prises pour rendre exécutoire la mesure de la démission du gouvernement. Donc, à cela que je fais allusion.
Oui, le deuxième aspect de la question de Papi Kassema de Kinshasa, il dit que quoi qu'il en soit, l'hypothèse du gouvernement d'Union nationale n'est pas salutaire car ce type de gouvernement est le plus fragile au monde.
Bon, disons que le contexte dans lequel ce gouvernement a été annoncé, c'est un contexte qui est parti des accords d'Addis Abeba, qui prévoyait qu'il y ait un dialogue, et puis après, ce dialogue a eu lieu, on l'a accusé de n'avoir pas été inclusif, et ce dialogue, le politique, on trouvait qu'il fallait qu'il en sorte un gouvernement d'union, et donc, là-dessus, les opinions sont très partagées, il y a des gens qui pensent que c'est une bonne chose d'avoir un gouvernement national, d'autres disent, mais en fait, il y a une majorité, c'est elle qui gère pendant les 5 ans, et après, elle va devoir citer. Mais en fait, moi, j'ai toujours pensé que il y a là une logique qu'il faut prendre en considération. Parce que il y avait des accusations qui étaient faites à l'endroit de la présente majorité, comme quoi elle gérait tout seul le pays, du haut en bas, et qu'il fallait de toutes les façons tenir compte de l'opposition. Bon, le fait que l'opposition... je ne crois pas que toute l'opposition pouvait accepter de faire partie de ce gouvernement. Il y a une partie de l'opposition qui dit oui, nous l'entrons, une autre dit non, pas du tout, nous restons en opposition parce que tout le monde ne doit pas faire partie de la majorité. Et on constate que cette question est devenue une question assez difficile à gérer par le chef de l'État, parce qu'en fait, il y a plusieurs prétentions, il y a plusieurs appétits, et apparemment, l'abondance des appétits a été problème à la mise en place du gouvernement.
Merci. Quelle solution pour sortir de cette situation, Maître Jacques Gaka, membre de l'Union congolaise pour la liberté UCL, parti de l'honorable Henri Thomas Lokondo? Vous proposez que cette mesure de gestion des affaires courantes soit levée officiellement. Vous croyez que cela pourrait débloquer la machine?
Vous savez, je ne peux que aller dans le même sens.
Si votre conclusion passe
oui, truc à la fin de la je ne peux qu'aller dans le même sens que l'honorable Kono, qui a eu le courage politique de proposer que le chef de l'État autorise le Premier ministre de lever cette mesure. Et il justifie même sa démarche qu'en sa qualité de chef de l'exécutif, il serait plus courtois que le chef de l'État appuie cette démarche du Premier ministre de lever cette décision. Cette proposition de recadrage des affaires courantes doit ramener les choses à leur juste dimension. Vous savez, en tant qu'observateur averti, analyste politique chevronné et un des cofondateurs de la plateforme d'ailleurs de la majorité présidentielle, il vient au finish aider le gouvernement. Nous sommes là pour aider le gouvernement et non pas essayer de consacrer une erreur indéfinie.
C'est-à-dire qu'il a eu le courage de dire tout ce que tout le monde pensait tout bas.
Tout à fait. Tout à fait. On doit lever expressément cette mesure-là.
Santé Kamara, vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Faut-il lever cette mesure ou maintenir les statu quo? Il y a un auditeur qui a affirmé que ces statu quo arrangeraient certaines personnes.
Le chef de l'État a annoncé sa volonté ferme de mettre en œuvre toutes les résolutions et recommandations issues des concertations nationales, nombre desquelles, notamment, la mise sur pied prochaine du gouvernement de cohésion nationale, mais il a affirmé et a tenu à souligner que ceci se ferait au terme d'un travail méthodique, un travail réfléchi.
Ceci étant.
Donc, il ne m'appartient pas ici de rentrer dedans et de dire, chef, levez vite, parce qu'on en meurt. N'étant pas au courant des contraintes politiques auxquelles il fait face, mais étant simplement comme intellectuel obligé de l'encourager à aller de l'avant, et constatant simplement que dans le cas de la gestion de cette question, il est obligé par moment d'intégrer dans son examen la contrainte du temps.
Et votre conclusion?
Ma conclusion, c'est que notre pays fait face à de nombreux défis en ce moment. Ce n'est pas facile d'être président de la République, démocratique du Congo, de surcroît. Et donc, je pense que nous devons continuer dans un sursaut de nationalisme. Nous devons continuer à fournir aux institutions de notre pays, comme élite, tout l'appui qu'il faut pour sortir notre pays du marasme dans lequel nous l'avons engouffré nous-mêmes.
Merci, professeur Félicien Kabamba, professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Il faut sortir de cette situation. Le député Lokondo propose que l'on puisse lever cette mesure.
Oui, mais je crois que si elle doit être levée, c'est à mon avis une concertation entre le Premier ministre et le chef de l'État. Le Premier ministre ne pourra pas la lever seul. Il faudra qu'il se concerte avec le chef de l'État pour voir quelle est la position du chef de l'État. Parce que, apparemment, le Premier ministre a pris cette décision en concertation avec le chef de l'État.
Merci, c'est la fin de cette émission. Mimi Kindou était à la technique. Merci à toute l'équipe Dialogue entre Congolais qui m'a aidé à préparer cette émission. Alain Irung, Kaline Kouté, Samuel Kachak, sous la supervision des Pélé Kipela Mondo, devant ses micros, Guy Maté. Merci et bonne suite des programmes sur Radio Kapi.